vendredi 23 avril 2021, il est 17h au studio Kalungu, le journal en français. C'est dans une présentation de Nefis Adam Sirfo, tout de suite à les titres. Les obsèques du président tchadien Idriss Déby ont eu lieu ce matin à N'Djamena. Plusieurs citoyens nigériens ont déploré son décès mardi dernier. La réaction de quelques-uns à Téra, région de Tillabéri, dans quelques instants. Aujourd'hui débute la deuxième décade du mois de Ramadan. À suivre dans ce journal, un prédicateur sur la conduite à tenir tout au long de ces 10 jours. Les violences conjugales sous toutes ses formes dans le département de Gaya, on en parle dans le magazine de ce jour. Bonsoir à tous. Les obsèques du président tchadien Idriss Déby ont eu lieu ce matin à N'Djamena devant plusieurs chefs d'État. À l'annonce de sa mort mardi dernier, de nombreux citoyens de la ville de Téra ont déploré sa mort. Pour eux, Idriss Déby est un panafricaniste. Leur réaction au micro de Boukari Kanda.
Le jour que j'ai entendu la mort du président tchadien, j'étais pas contente parce que le président tchadien nous aide et il nous a amené des militaires qui viennent nous aider à défendre la sécurité de Téra.
Je suis pas contente et ça fait mal aussi beaucoup de pays. C'est pas une bonne nouvelle pour nous. Il a aidé beaucoup en Afrique.
La mort de Idriss Déby, nous avons perdu un brave au niveau du Sahel. Je me suis dit que l'Afrique maintenant va se retrouver dans une situation dont nous-mêmes on ne sait pas où ça va nous amener.
Je pense que c'est une grosse perte pour l'Afrique. C'est un digne fils de son pays qui a tant bien que mal géré le pays vu le contexte sécuritaire de ces dernières années. Sa perte va beaucoup peser sur le pays. Il y a un hommage à lui rendre, sa façon de protéger son pays.
Je vous le disais dans les titres, le mois de Ramadan entre dans sa deuxième décade à partir d'aujourd'hui. Selon le prédicateur Oustaz Haladou Yahya, le jeûneur doit continuer dans les bonnes pratiques et éviter certains comportements afin de bénéficier des bienfaits de cette deuxième décade. Il est joint au téléphone par Hawa Ousmane.
La deuxième décade est une étape qui a besoin de beaucoup de patience et d'efforts. Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà invité, appelé, rappelé, Ya ayyuhallazina amanu, sta'inu bis-sabr was-salat, inna Allaha ma'as-sabirin. Ô vous qui avez cru, cherchez secours, cherchez l'issue auprès de Allah subhanahu wa ta'ala avec la prière, les zikr et avec la patience. Et Allah dit qu'il est avec les patients. Donc il nous faut être patient dans l'obstinence, patient dans les relations avec nos prochains. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, même au cas où on nous provoque, notre réponse devrait être je jeûne, que Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste.
Pendant ce mois de Ramadan, à la rupture, les nutritionnistes recommandent une alimentation saine pour rester en bonne santé, raison pour laquelle ils conseillent aux jeûneurs d'éviter la consommation de certains produits. C'est ce qu'explique le pharmacien nutritionniste Dr Harakwe Mohamed.
Il existe des aliments à proscrire totalement lors du jeûne du Ramadan. Il faut exclure tout ce qui est excès. L'excès de sucre, on l'a dit, qui peut pratiquement entraîner une obésité. Éviter vraiment des aliments qui sont très 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 riches en sel. Il faudrait les éviter au maximum parce que le sel a tendance à faire élever la pression artérielle. Nous avons la consommation de la graisse, que ce soit le beurre, les mayonnaises, il faut réduire car ces substances peuvent entraîner une élévation du cholestérol. Il faudrait également éviter au maximum les boissons gazeuses parce que riches en sucre, riches également en substances qui peuvent augmenter l'acidité gastrique et entraîner des ulcères gastriques à répétition.
Des propos recueillis par Hilatou Soumana. Dans les rues des grandes villes ghanéennes comme Accra, Kumasi et Takoradi, des dizaines de femmes et enfants nigériens pratiquent la mendicité. Selon Serkimbouzou Mohamed, le chef Touareg de Kumasi, les autorités nigériennes doivent prendre des mesures pour lutter contre cette pratique qui ternit l'image du Niger à l'étranger. Il est au micro de Seydi Abdou Windetan.
Des femmes avec des petits-enfants qui mendient. Des femmes bien portantes, devenues des spécialistes, des professionnels, qui ne cherchent que l'argent et non la nourriture, ternissant ainsi l'image de notre pays dans les médias. Comme solution, ici, nous avons décidé de ne plus donner la charité à ces personnes venues faire du business. Ensuite, nous demandons au gouvernement du Niger de prendre des mesures contre ce phénomène, notamment en les empêchant de quitter le pays avec plusieurs enfants qu'ils verseront dans la mendicité. Alors qu'il y a des écoles partout au Niger et l'éducation est gratuite. Il y a aussi les écoles coraniques tenues par les marabouts. Et si tout cela ne convient pas aux parents, il peut inscrire son enfant en formation professionnelle, car la mendicité n'éduque pas. Les autorités ghanéennes ont décidé de les chasser, ce qui peut toucher d'autres personnes innocentes.
Ici à Niamey, la capitale du Niger, l'on constate également un afflux de mendiants aux différents carrefours. Cette mendicité est devenue aussi transfrontalière. Comment expliquer ce fléau ? Alouaye, sociologue, répond au micro de Salamatou Kadri.
Malheureusement, la mendicité est devenue un véritable business où les gens, de génération en génération, de village en village, se mobilisent comme s'ils se sont donné un mot d'ordre pour se retrouver à Niamey et à l'extérieur du pays afin de chercher de l'argent. Nous sommes en train de constater que le Niger est en train d'exporter la mendicité de la sous-région. Il faudrait juste faire un saut au Bénin, au Togo, au Nigeria. Vous allez voir, la majorité des mendiants sont des Nigériens. Ça, c'est à la limite une honte nationale. C'est une atteinte à la pudeur, à l'honneur de l'homme nigérien. Parce que tout simplement, quelque part, l'État, la communauté, la société a démissionné. Parce que c'est des situations sur lesquelles nous devrions prendre les mesures les plus ardues afin de pouvoir éradiquer ce phénomène. Parce que je vous avoue, on ne peut pas construire une nation avec les gens qui tendent la main. Et je pense que c'est le lieu de rappeler à l'État du Niger qu'il y a nécessité de réorganiser le système.
La suite de cette édition, les étudiants de l'université de Zender sont sortis ce matin de leur campus pour bloquer la route qui mène au centre-ville du côté nord. Ceci pour exiger la prise en compte de leurs revendications qui se résument à deux points exposés ici par le secrétaire général des étudiants de l'Union des étudiants de l'université de Zender, Issoufou Aboubakar. Il est joint au téléphone par Mustapha Mamansani.
Ça fait 6 mois que nous attendons le paiement de la bourse de la première tranche. Le ministre avait autorisé à travers une note de payer et que la mission était rentrée récemment pour payer la bourse des vacances. Les étudiants ont attendu qu'on fasse le tour de toutes les autres régions pour venir payer la bourse des vacances après 9 mois. Nous avons demandé que la première tranche commence à notre niveau aussi. On nous fait comprendre qu'il n'est pas possible de commencer à l'université de Zender. D'ailleurs, le comptable qui était venu pour payer la bourse des vacances, il y a des camarades qui n'ont pas perçu jusqu'à là. Et il était réparti avec de l'argent sans pouvoir désintéresser totalement nos étudiants. Et en dehors de ça, nous avons dénoncé le jour dernier la question de la réforme académique qui a été amendée, qui a fait l'objet de beaucoup de contestations et même d'assises au niveau du ministère. Et que jusque-là, le gouvernement reste sous silence alors que nous avons constaté que cette réforme est en train d'être mise en vigueur très particulièrement à l'Université des Andes. Nous avons compris que les autorités ne veulent vraiment pas prendre au sérieux nos revendications.
Parlons santé en bref. Au Niger, la situation de la pandémie de la COVID-19, selon le Conseil des ministres d'hier, se présente comme suit. À la date du 21 avril 2021, 94 368 tests ont été réalisés, dont 5141 cas confirmés positifs à la COVID-19 et 191 décès enregistrés. À ce jour, 4812 sont sortis guéris et 138 patients actifs, parmi lesquels 17 en cours d'hospitalisation. Le gouvernement a annoncé hier qu'un lot de 106 échantillons a été envoyé à l'IDP Dakar, parmi lesquels un cas de variant britannique a été identifié. Selon les autorités, il s'agit d'un voyageur provenant d'un pays de la sous-région. Il a été pris en charge jusqu'à négativation et tous ses contacts ont été testés positifs, a précisé le communiqué. L'Union européenne vient de procéder à un troisième décaissement d'un montant de 23 milliards de francs CFA au profit du Niger pour appuyer le budget de l'État dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 et la mise en œuvre des politiques nationales de développement. Ces fonds vont servir au financement du plan global de réponse du gouvernement à la lutte contre la pandémie d'une part et à atténuer les effets de l'insécurité alimentaire et les conséquences des attaques terroristes et inondations d'autre part, a déclaré ce matin le ministre des Finances, Dr Ahmad Joudoud. présent la partie magazine de cette édition. Dans la société nigérienne en général et dans le département de Kaya en particulier, on enregistre souvent des cas de violence conjugale qui se manifestent sous plusieurs formes, relève la directrice départementale de promotion de la femme de Kaya. Selon elle, dans beaucoup de couples, les époux subissent des coups et blessures de la part de leur conjointe. Cependant, très peu parmi les victimes se confient aux services compétents. Amina Mahamadou répond aux questions de Fadela Lou.
Il y a beaucoup de violences dont les femmes sont victimes. Dans le département du Kaya, de manière générale, il y a des violences physiques, il y a des violences économiques, il y a des violences sexuelles. Le plus souvent, c'est les violences économiques, les violences physiques. Les violences économiques, c'est que vous allez voir une femme mariée, mais dont le mari n'arrive pas à supporter ses besoins fondamentaux. Souvent, on l'y empêche même d'aller faire un petit commerce tout à l'heure. Les violences physiques, c'est frapper son épouse. Les violences psychologiques, les maltraitances, les sévices mentaux, tout ça là, c'est des formes de violences que nous rencontrons.
Comment est-ce qu'on peut expliquer ces violences que subissent ces femmes?
Souvent, c'est dû à un malentendu entre l'homme et son épouse et ça dégénère souvent par des bagarres, par des querelles, tout ça là. C'est ça qui engendre cela. La femme subit des coups. Il y a d'autres, c'est les maris qui subissent. On a vu des cas, des femmes qui violentent les maris. Quand elles sont choquées, elles vont attendre un bon moment pour rendre son coup. Souvent, c'est vraiment mortel. Vous voyez, l'un dans l'autre, c'est dû au fait que, dès au début, les gens ne fondent pas leur mariage sur des bonnes bases.
Est-ce que vous enregistrez souvent ces genres de plaintes auprès de votre service?
C'est vraiment rare. Mais quand il y a des enfants, les gens préfèrent venir vers nous. Et nous, on fait un entretien avec la femme et on référence la femme soit à la police, soit directement à la justice. Le plus souvent, elles me connaissent leurs droits, elles me connaissent les voies du recours pour solutionner tout cela. Quand c'est avec des blessures graves, souvent, ils vont à la police directement, convoquer le mari. Et c'est en ce moment-là, la police fait son travail et elle transmet à la justice. Ou alors, si là-bas, elle trouve un terrain d'entente, on concilie les deux parties. Et c'est comme ça qu'on arrive à régler ça le plus souvent. Et quand on essaye de rapprocher les hommes souvent, ils ne viennent même pas. Il faudrait user par la force pour faire venir les hommes souvent. Les femmes, elles viennent, il n'y a pas de problème parce que c'est elles qui subissent les violences.
Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre attention. À suivre à partir de 18h15, le forum de la presse présenté par Mokhtar Hamadou. Bonsoir, grande sœur. Enfin, aujourd'hui, je me suis décidée à venir te rendre visite au bureau.
Ah, Nafissa, tu sais, tu es toujours la bienvenue dans mon bureau.
Je sais, de toute façon, je suis ta petite sœur préférée, ou bien...
Toi-même, tu sais, non? Est-ce que j'ai besoin de le dire?
Mais, attends, grande sœur. Apparemment, vous ne blaguez pas ici avec les mesures de prévention contre la COVID-19.
Ah, mais oui, avec cette deuxième vague, nous devons donner le bel exemple au peuple.
Je comprends alors. Tout à l'heure, le vigile à la porte ne voulait pas nous laisser entrer dans le bâtiment sans bavette et sans avoir lavé nos mains. Heureusement qu'on avait nos bavettes dans nos sacs. On les a enfilées et on a lavé nos mains. Et me voilà dans ton bureau.
Tu vois, cette deuxième vague qui a encore repris, c'est à cause des comportements de négligence comme les tiens. Tu dois être responsable, je te le répète toujours. À chaque fois que tu dois te retrouver dans un endroit avec le monde, porte toujours ton masque. Il ne faudra pas laisser la négligence prendre le dessus. Soyons responsables, protégeons-nous et protégeons les autres.
Tu as tout à fait raison, grande sœur. Merci beaucoup pour ces conseils.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.